One for Dwayne, I'm good.
Ce début de deuxième partie, on va vous parler d'un autre exemple de littérature populaire, un roman qui s'appelle Les Biffins de Marc Villard, publié récemment aux éditions Joël Losfeld. Les deux romans précédents, enfin les romans précédents dans
l'émission,
dans la première partie d'émission, pas ceux de Marc Villard, nous entraînaient dans des coins de campagne. Là, on est au ras du bitume, dans la cité, dans l'urbain. Un récit de 120 pages de ce spécialiste du cours, de la nouvelle. 120 pages, allez, pour se moquer un peu, pour Marc Villard, c'est presque un roman fleuve. Et l'on retrouve dans ses récits, dans ses nouvelles, dans ses romans, les mêmes exigences d'écriture, les mots sur la corde raide, un récit très vif, nerveux, qui jamais ne s'essouffle. Ainsi que Cécile, d'ailleurs, le personnage principal, que nous allons suivre quelques jours, enfin, tenter de suivre, parce que pour elle, c'est plutôt une fuite, une ligne de fuite. Et donc, Cécile, elle travaille au SAMU social. La nuit, traquant l'indigent, le SDF, les paumés, ceux qu'on ne veut pas voir, et qu'elle, elle regarde droit dans les yeux. C'est sa mission. Le potage bouillant d'une main, la couverture de survie de l'autre, toujours un sourire, un euro dans la poche. Une dernière nuit, un incendie, un mort, samouraï, une cloche, sauver des flammes. Et Cécile court encore, file vers une nouvelle mission, accompagner les biffins. Et nous allons pouvoir donc enfin expliquer le titre, car, pour ma part en tout cas, je ne savais pas avant de lire ce roman ce que signifiait ce roman. Ce mot, pardon, ce sont les vendeurs des rues, ceux qui déplient leurs couvertures, leurs tréteaux, pour proposer des refourgues. Et du coup, je vais vous lire un petit extrait, puisque quoi de mieux que de demander à Marc Villard d'expliquer ce que sont les biffins. Il l'explique à Cécile, donc. Donc, tu vois, les biffins officiels ont 100 places pour eux, et les vendeurs à la sauvette essaient en permanence de choper leur espace. Il faut faire la police. En 2009, des biffins du coin, maghrébins pour la plupart, ont décidé de s'organiser et ont créé une association pour gérer les places sous le pont. Avec des contraintes. Pas de vente pharmaceutique, pas d'eau, pas d'alimentation, que du seconde main. La vraie bif, quoi. Rien ne tombe du camion. Puis, le temps a passé, et les mecs qui zonent, pas forcément des sans-papiers, se sont installés peu à peu autour du pont et finissent par choper les places des historiques quand les autres ne sont pas arrivés ou sont partis un peu tôt. Et nous, donc là où travaille Cécile, nous, on est là, pour que tout ça fonctionne. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que, oui, même dans la rue, chez les plus déclassés, il y a une hiérarchie, des castes. Et les biffins chassent ceux qui sont à la sauvette, ceux qui ne sont pas encartés, les clandestins, qui eux aussi courent, fuient aussi. Et Cécile qui donne, se donne, pour retrouver quelque part, derrière un visage, le souvenir de Bird, son saxophoniste de père, mort après lui aussi avoir bouffé du bitume et dormi à la belle étoile. Les étoiles ne sont pas très belles. Pour ceux qui dorment dehors, c'est le moins qu'on puisse dire. Marc Villard, lui, il a choisi la seule voie possible pour nous raconter, décrire la rue. Les clochards, les migrants, les SDF, tous ces paumés. Pas de misérabilisme, pas d'énumération sordide. Au contraire, un récit tonique, survitaminé, en vis-à-vis de l'asthénie des fantômes qui hantent les rues de la capitale. Certes, Cécile fuit, tourne en rond, reviendra en fait au point de départ, évidemment. Mais ces quelques jours de déambulation nous auront donné l'occasion de croiser Nadia, ou Sarah, oui, tous ceux que l'on dénomme souvent la faune, quel mot, déshumanisation complète de ceux qu'on croise, et qu'on ne voit nous plus du tout. Ce roman, il tient presque du documentaire, mais qu'on ne se trompe pas. C'est juste un roman noir, un roman social, un roman indispensable. Donc je rappelle le titre, Les Biffins. Maintenant, vous n'aurez plus d'excuses pour dire que vous ne savez pas ce que ça veut dire. L'auteur en est Marc Villard, et c'est chez Joël Losfeld, édition. Marc Villard, on en a déjà souvent parlé, comme un très grand amateur de jazz. Vous avez entendu le papa de Cécile, elle le surnomme Bird, c'est un saxophoniste. Hommage à un grand du jazz. Il arrive à placer deux musiciens dans ce livre, dont un, c'est une musicienne. Jacques, je te laisse la présenter.
La musicienne, c'est R.L. Besson, qui est une trompettiste. Et on va l'écouter dans son dernier album, avec le pianiste Édouard Ferlet et le bassiste Stéphane Kéréki. L'album s'appelle Aires. C'est du jazz, certes, mais fortement inspiré de musique d'harmonie classique ou baroque, du Bach, du Fauré, du Ravel. Là, on écoute une composition d'R.L. Besson qui s'intitule Infinité.
R.L. Besson, donc maintenant récit tout aussi tonique.
Tout à fait, donc avec un roman de Caryl Ferré qui s'appelle Plus jamais seul, qui est paru à la Série Noire. C'est le retour de Mac Cash pour une troisième enquête, une troisième aventure. Alors je rappelle pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, Mac Cash est un flic d'origine bretonne par sa mère, irlandaise par son père. C'est à Belfast dans sa jeunesse qu'il a gagné, si j'ose dire, le bandeau de pirate qui dissimule son œil, perdu dans une bagarre de bar. Il a longtemps été flic en France, puis détective privé. Il est désormais cinquantenaire. Il roule dans une Jaguar XJS Vintage. Et il vient de se découvrir, sur le tard donc, une fille, une ado de 13 ans, avec laquelle il s'apprête à partir en vacances. Mais puis il voulait pas d'enfant, alors il affirme tout de go à Alice, sa jeune progéniture. « Tu sais, je suis nul en gosse. » Mais peu importe, ils trouveront certainement plus facilement une maison de vacances que le soleil dans cette Bretagne du bout du monde.
Ça, c'est pas très objectif.
Mais les types comme Makash ne prennent pas de vacances. De fait, il apprend la mort de Marco, dit Marco le dingue, un de ses vieux copains, dont le bateau a disparu, probablement coulé par un plus gros que lui. C'était pourtant un bon marin, un fin navigateur, jamais il n'aurait laissé son classe 40 se faire approcher par un cargo. Les vacances sont bel et bien râpées. Makash va chercher à savoir comment et pourquoi son pote a disparu, d'autant qu'il apprend qu'à bord du voilier se trouvait Angélique, son amour de toujours, mais abandonné il y a longtemps. La jeune Alice devra s'y faire, pas de vacances avec son père. Ils apprendront malgré tout à se connaître. Caryl Ferré a vieilli, Mac Cash aussi, mais ils ont tous les deux gardé leur ténacité, leur colère, leur esprit punk. Caryl dans ses propos, Mac Cash dans sa détermination entêtée. Les romans de Mac Cash, de Caryl Ferré, ne sont jamais des bluettes. Les autres non plus d'ailleurs. Mac Cash ne se laisse jamais faire, même si tout au fond de lui c'est un tendre. Mais il n'aime pas qu'on l'emmerde, qu'on lui cherche des noises, ou qu'on l'empêche de trouver ce qu'il cherche. Surtout s'il cherche Angélique. Le roman va être brutal, vif, sans répli pour Makash ni pour le lecteur. Mais l'avantage, c'est que le lecteur, lui, ne se fatigue pas. Car il va nous amener jusqu'en Grèce, depuis la Bretagne et retour, en 300 pages tonitruantes, à l'image du groupe Spork Orchestra, dont la musique sert de fil rouge au récit et donne son titre au roman. Spork Orchestra, c'est du slam rock, du slam punk. Au passage, Caryl Ferré, au cours des pages, égratignera ceux qui, en Bretagne comme en Europe, principalement en Allemagne, ont mis à la diète tout le pays, la Grèce, tout en s'emparant des richesses et des ressources. Petros Makaris nous l'avait bien expliqué, mais Caryl rajoute une couche à sa façon plus cash, plus Makash, à sa façon plus clash. Il évoque aussi le problème des migrants, dont on voudrait nous faire croire qu'ils sont la source de tous nos maux. Juste quelques lignes pour finir cette chronique. L'objectif de la chasse aux sans-papiers n'étant pas tant la fermeture des filières d'immigration que le conditionnement des futurs citoyens pour qu'ils acceptent passivement le nouveau monde qu'on leur construisait, qu'ils apprennent qu'il n'y en aurait pas pour tous, entérinent certaines frontières et la défendent. Voilà donc un très bon cru de Ferré, un très bon cru Mac Cash en attendant le retour de Caryl probablement en Amérique du Sud.
Bien, nous allons terminer cette émission en vous emmenant juste un petit peu plus loin que la Grèce dont tu viens de parler et un petit peu plus loin dans le temps puisque nous allons partir en Albanie au début du XXe siècle et je vais vous parler d'un roman sorti récemment, début février. Ce roman s'intitule « Les assassins de la route du Nord ». Il est paru aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noirs. C'est un roman de Anila Wilms qui est traduit de l'allemand. Je précise de l'allemand puisque c'est un roman qui se passe en Albanie et Anila Wilms est d'origine albanaise, mais Carole Fili l'a traduit de l'allemand. Nous sommes au printemps 1924 dans le nord du tout jeune pays qu'est cette Albanie. Rappelons que le royaume d'Albanie n'a été déclaré indépendant qu'en 1912. D'ailleurs, les frontières ont encore changé jusque dans les années 20. Et en 1924, donc, au début du roman, deux jeunes Américains sont assassinés alors qu'ils parcourent, on ne sait trop pourquoi d'ailleurs, une difficile route montagneuse dans une des parties les moins accessibles de ce pays. Un drame pour la région, car cela viole le canoun. le code de morale, les lois inviolables que respecte normalement tout habitant de ces montagnes. C'est à la fois un code d'honneur comme un code de survie qui est là depuis des centaines d'années. Dans ce code d'honneur, il y a l'hospitalité. On ne peut porter atteinte à aucun étranger, évidemment, a fortiori, les tuer. C'est un événement microscopique, mais ça va devenir une déflagration qui va entraîner des conséquences énormes, tant pour les habitants des montagnes que pour le pays tout entier, voire de manière internationale. Procédé assez classique, mais très bien utilisé par l'auteur, mélangé à la fois des personnages de fiction, en particulier les personnages, les habitants autour de cette fameuse route du Nord, et puis les personnages réels, les personnages dits historiques, qui ont participé aux événements qui bouleversèrent donc ce tout jeune pays. Politique intérieure, diplomatie, par exemple, les Américains veulent-ils aider de manière désintéressée les Albanais ou veulent-ils contrôler d'importantes ressources minières? Peut-on encore se poser la question? Ceci dit, les rumeurs vont vite. Les ressources minières existent-elles? Nous allons donc allègrement passer des antichambres d'ambassade au ravin de la Trora, j'espère que je prononce correctement cet endroit, jusqu'au village de Mamouras où la résistance s'organise. Le canon doit être respecté. Le monde entier peut bien s'alarmer. Les habitants ne changeront pas les traditions. Par exemple, la largeur de la route. Les nouveaux dirigeants veulent faire passer de cette route à 5 ampes de drapeaux et demi, très grande route, alors qu'il est dit dans le canon qu'il suffit qu'un cheval lourdement chargé ou une charrette à bœufs puisse y circuler. C'est en gros la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Le canon et les habitants des montagnes peuvent-ils faire vaciller les alliances politiques et les enjeux internationaux? À moins que ce ne soient pas les habitants des montagnes, mais tout simplement les esprits qui hantent ces montagnes. Ça, c'est très très important dans cette partie du pays. On a donc un roman intéressant, original, qui oscille intelligemment entre la fresque historique et la fable truculente. Et franchement, c'est un roman à découvrir absolument. Je rappelle donc le titre. Ça s'appelle « Les assassins de la route du Nord », collection Actes Noirs. L'auteur en est Anila Wilms et on reparle de la traductrice Carole Philly. Et voilà, cette émission s'achève. On va vous dire, selon la formule consacrée, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
À la prochaine fois.
Au revoir.